les podcasts de Radio Vatican.
Nous allons quitter l'Union européenne, mais nous allons le faire en douceur et de manière ordonnée. La première ministre britannique Theresa May a défendu ce lundi 11 décembre 2017 devant la Chambre des communes l'accord conclu vendredi avec l'Union européenne sur le Brexit. C'est une bonne nouvelle pour les personnes qui ont voté en faveur de la sortie, qui craignaient que nous ne nous enlisions, mais également pour les gens qui ont voté pour le maintien dans l'Union européenne, qui redoutaient un naufrage, a encore déclaré Theresa May. Mais cet accord, fruit d'un compromis pour satisfaire les pro-Brexit sans se couper des opposants à la sortie de l'Union, est-il si bien reçu par les Britanniques? La réponse de Sophie Lusswarn, maître de conférence à l'Université de Picardie, spécialiste de la politique britannique.
Alors l'accord que Theresa May a obtenu vendredi 8 décembre à l'aube a été bien accueilli par les députés conservateurs à la Chambre des communes lors de sa déclaration. Mais le parti reste divisé entre partisans du Brexit et du maintien. Le Parti travailliste, en revanche, et Jeremy Corbyn, le chef du Parti travailliste, ont demandé à ce qu'on repousse l'échéance du 29 mars 2019 pour obtenir un meilleur accord. Jeremy Corbyn, lui, souhaiterait rester dans le marché unique, ce qu'a exclu Theresa May, qui souhaite à la fois sortir du marché unique et de l'union douanière, afin de pouvoir contrôler l'immigration.
Vous l'avez dit, la question principale, c'était celle de l'immigration. Alors, est-ce que cet accord qui a été conclu vendredi peut satisfaire ceux qui voulaient le contrôle des frontières?
Alors, il est vrai que, à l'avenir, en sortant du marché unique et de l'union douanière, le Royaume-Uni pourra contrôler aux frontières les populations qui rentrent, mais cela aura aussi un inconvénient en matière commerciale, en matière de circulation des biens et des services et des capitaux, ce qui est fondamental pour un pays dont l'économie repose à 75% sur le secteur des services et la finance. Alors, le contrôle des frontières sera d'autre part très difficile, il va falloir augmenter le nombre de douaniers, et puis cet accord ne garantit pas absolument la baisse de l'immigration, car le Royaume-Uni a besoin d'une immigration qualifiée pour faire fonctionner son économie, et cet accord ne va pas finalement remettre en question l'avenir des 3,2 millions de ressortissants de l'Union européenne, puisque l'avenir du 1,2 million de Britanniques vivant dans l'Union européenne en dépend.
L'immigration en tant que telle n'est pas abordée dans l'accord. Parmi les différents points de cet accord, la facture, le sort des ressortissants européens, la frontière irlandaise, lequel est le plus décrié au Royaume-Uni?
Alors, la question du règlement financier suscite les critiques des partisans du Brexit qui sont très réticents à verser 39 milliards de livres, ce qui semblerait être la somme à laquelle on est arrivé aujourd'hui. Cette somme est conditionnelle et dépend de l'accord commercial que le Royaume-Uni obtiendra de l'Union européenne. Comme l'a dit Theresa May, « Nothing is agreed until everything is agreed ». Le Royaume-Uni ne va pas payer comme ça 30 milliards de livres sans obtenir un accord commercial en contrepartie pour redéfinir sa relation avec l'Union européenne. Et à ce titre, le Conseil européen des 14 et 15 décembre sera déterminant.
On le voit, Theresa May a fait une concession sur cet accord financier. Idem sur le cas irlandais, puisqu'elle accepte que l'union douanière s'applique en Irlande du Nord après le Brexit. Est-ce qu'on peut dire que Theresa May ne satisfait pleinement personne, mais ne mécontente pleinement personne non plus?
Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que Theresa May a fait campagne pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Aujourd'hui, elle veut mettre en œuvre le Brexit pour répondre aux vœux de la population britannique qui a voté à 51,9% pour le Brexit. Il ne faut pas oublier quand même que 48% des Britanniques étaient favorables au maintien. Les Irlandais du Nord ont voté majoritairement pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Les Écossais ont voté majoritairement pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Londres a voté majoritairement pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Ces électeurs qui étaient partisans du maintien ne sont pas entièrement satisfaits des négociations, car pour eux, il était fondamental de rester dans le marché unique et dans l'union douanière. Et il ne faut pas non plus ignorer cette partie de la population.
Theresa May avait été très affaiblie par sa maigre victoire aux législatives de juin dernier. Est-ce que cette politique d'attention aux deux camps la renforce de nouveau ou au contraire la fragilise un peu plus?
Je pense qu'elle a réussi à maintenir le statu quo. Elle n'est pas affaiblie par rapport au 8 juin. Elle réussit à se maintenir, mais elle n'est jamais à l'abri de l'opposition de son parti. Et le parti conservateur est divisé sur le Brexit entre les partisans du maintien qui se désolent de l'issue trouvée et les partisans du Brexit qui voudraient toujours un accord plus dur. Et donc, ce sont des partis irréconciliables. Et le mérite du Premier ministre Theresa May est d'essayer de concilier les intérêts divergents de son propre parti.
Donc, selon vous, Theresa May n'est pas menacée, contrairement aux rumeurs qui continuent de circuler sur son éventuelle éviction?
Le Parti conservateur souhaite qu'elle reste Premier ministre, car le Parti conservateur veut à tout prix éviter de nouvelles élections législatives qui risqueraient d'installer à Downing Street le Parti travailliste avec son chef Jeremy Corbyn, qui est lui-même contesté au sein du Parti parlementaire travailliste. Donc aujourd'hui, je dirais que Theresa May est parvenue à maintenir l'unité de son parti, et c'est sans doute la personnalité du Parti conservateur la mieux à même de mener ces négociations. Et les personnalités les plus affaiblies sont en fait Boris Johnson, qui n'avait aucun plan pour négocier le Brexit, le ministre du Brexit, David Davis, le seul ministre qui tente de mettre en œuvre une politique constructive, et Liam Fox, le ministre du Commerce international, qui s'est rendu dans plusieurs pays afin de négocier des accords commerciaux bilatéraux, notamment avec les États-Unis, avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Inde et les pays du Commonwealth, qui sont un atout considérable pour le Royaume-Uni, puisque c'est une association regroupant 54 pays sur les 5 continents du globe.
Après cet accord viennent maintenant les négociations commerciales. Comment les Britanniques abordent-ils l'ouverture de ces négociations avec l'Union européenne, avec optimisme ou avec pessimisme?
Je crois que Theresa May aborde ces négociations avec sérénité, pragmatisme et ténacité. Pour la population britannique, c'est un saut dans l'inconnu. Il est très difficile de connaître à l'avance l'accord commercial qui sera obtenu. Le monde des affaires est dans l'expectative. Les investissements ont été ralentis par cette sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne à l'horizon 2019. Et il est vrai que beaucoup d'incertitudes persistent.
Un entretien réalisé par Samuel Blény.